je tiens à dire ici tout l'honneur qui est le mien d'avoir accédé à ces ouvrages parce que dans l'univers africain, il n'y a pas de hasard. Et j'en ai parlé avec l'auteur. Je pense que c'est un honneur immense pour moi d'avoir vu simplement, d'avoir accédé à ces ouvrages et de les avoir lus. Mon propos va s'articuler en trois. Parce que nous avons en fait deux grands mouvements que l'auteur a lui-même voulu en émettant ou alors en nous transmettant ses ouvrages. Et il y a une petite note critique qui me permet de sortir tranquillement de cela et de vous interpeller tel que moi je l'ai été. En tant qu'historien, ces ouvrages m'ont permis de visiter avec beaucoup de plaisir l'Égypte antique. Et ce voyage en Égypte antique est tout particulier parce que ce n'est pas de l'histoire simple, ce n'est pas des faits simples, mais c'est des faits qui sont frappants. C'est des faits qui nous électrocutent de la conscience. Ce n'est pas un récit historique comme pouvait le faire n'importe quel historien ordinaire. Après chaque entretien, je pense que c'est la première fois que j'ai été face à un ouvrage qui interpelle les racines de toutes mes conceptions, non seulement religieuses, mais pratiquement existentielles. Et cet ouvrage, je prends le premier tome. Le premier tome a été personnellement comme un électrochoc. Je passe en vous disant qu'en dehors d'être historien, je suis chrétien catholique. Et cet ouvrage est venu bousculer mes racines de chrétien. Si j'étais musulman, je l'aurais été également. Mais m'a fait prendre conscience de l'impact aliénant de ma religion et de la civilisation occidentale. Ce n'est pas que je veuille renoncer à ma religion, mais je pense que si je continue de pratiquer ma religion, je la pratiquerai comme un Africain. Et je pourrais emprunter quelque chose aux évêques africains pour dire que je ferai le catholicisme pur et radical. En lisant ces ouvrages, je vais être assez bref parce que c'est vraiment en diagonale. En lisant le tome 1, non seulement j'ai pu me rendre compte de la similarité qui existe entre la culture égyptienne, l'Égypte qui est pratiquement le berceau de tous nos peuples, et particulièrement le mien qui est le peuple bantou, mais encore plus le peuple bamou. Il y a une très forte ressemblance entre les pratiques, je peux même aller jusqu'aux pratiques ésotériques, qui existent entre le peuple égyptien et le peuple bamou. Il y a une grande ressemblance entre la langue, certains mots clés utilisés en égyptien ancien et la langue bamou. Et ça a été très frappant pour moi parce que jusque-là, je n'avais pas visité la cosmogonie bamoun. Et ça a été pour moi un réel choc, ça je vous assure. Mais en même temps, cet ouvrage, ce premier tome, m'a pratiquement décolonisé. Mais je voudrais revenir sur un fait pour ceux qui vont attaquer cet ouvrage simplement aujourd'hui. Cet ouvrage, d'emblée, parce qu'il parle des choses graves, des réalités assez graves, cet ouvrage est un peu fermé sur le plan du style. C'est-à-dire que vous allez trouver un style très, très érudit et qui n'est pas accessible à n'importe qui n'est pas accessible aux Camerounais moyens, c'est ce que je peux dire.
Seul l'élite, j'allais même dire l'initié, peut lire véritablement et apprécier le tome 1. Parce que dans le tome 1, nous visitons même la naissance de l'homme. Parce que dans ce tome, vous allez voir des expressions qui vous parlent de la connaissance véritable de l'origine de la vie, qui nous parlent du temps du Verseau. Or, quand on parle du temps du Verseau, vous allez trouver que ceux qui parlent de la gnose actuelle ou ceux qui font de l'ésotérisme actuellement ont simplement emprunté à l'Égypte. Et ils en parlent aujourd'hui comme si c'était un fait nouveau, alors que le peuple Bamoun avait déjà pratiquement compris, c'est-à-dire avait pris avec lui ce terme, cette réalité qui est le temps du Verseau que nous vivons et qui a ses réalités. Et quand on dit temps du Verseau, ça veut dire qu'il y a d'autres temps. Je reviens sur autre chose, sur la décolonisation de notre intellect et de nos repères religieux et moraux. Parce que cet ouvrage nous parle des préjugés raciaux, et fait un parallèle ici avec la doctrine chrétienne dans sa page 17 du premier tome. Et nous renvoie également à l'Imoun qui est l'éternel lumineux, le sauveur, le rédempteur. Et quand je dis sauveur, je vois certains d'entre nous qui hochent la tête, mais il y a sauveur également dans une autre cosmologie. Et on a l'impression simplement que même la religion chrétienne a beaucoup emprunté à l'Égypte et même, à, je peux dire, au peuple Bamoun. Le peuple Bamoun avait déjà toutes ces réalités qui sont profondes. À la fin du premier temps, je me rends compte d'un fait, c'est que la religion occidentale est venue nous fermer la voie vers nous-mêmes. Et l'ouvrage de M. Linjou nous ouvre plutôt la voie, nous demande de chercher à être nous-mêmes afin de connaître comme Socrate pouvait le dire, afin de connaître l'univers et les dieux. Donc ici, lorsqu'on visite profondément tout ce que toutes les valeurs, tout l'univers de l'Égypte et son parallèle Bamoun, on se rend compte en fait que la religion occidentale n'est en fait que le cours d'initiation vers la conquête de notre esprit. Si on veut réellement conquérir notre esprit, on doit aller plus loin. On doit avoir d'autres valeurs que celles que la religion chrétienne ou même la religion musulmane nous véhicule et nous donne l'impression que nos traditions ne valent rien du tout. Lorsque j'attaque maintenant le tome 2, je me rends compte que l'auteur, M. Linjou, a pris un autre cas. Non seulement le parallèle est toujours tracé entre l'Égypte, d'ailleurs le titre est très évocateur, entre l'Égypte antique et la culture Bamoun, mais l'auteur fait également un clin d'œil à d'autres cultures que nous connaissons bien. Il fait un clin d'œil à la culture Béti. Et je vais vous donner un petit mot. Il fait un clin d'œil à la culture Béti. Il fait un clin d'œil à la culture Bakoueri. Il fait un clin d'œil à la culture. Excusez-moi un moment. Il fait un clin d'œil à la culture Béti, il fait un clin d'œil à la culture Bambara, et ceux qui connaissent les Bambara peuvent vous dire, il fait un clin d'œil à la culture Yoruba. Donc, il embrasse toute l'Afrique pratiquement avant de revenir à la cosmogonie Bamoun. Pour dire, et beaucoup d'entre vous le savent, que nous venons tous de la vallée du Nil. Mais la meilleure expression culturelle, la meilleure expression traditionnelle de cette culture qui nous vient de la vallée du Nil, nous pouvons dire incontestablement que c'est la culture bamoun parce que les racines linguistiques sont pratiquement visibles, évidentes. Les racines sociologiques sont évidentes et en même temps, nous voyons que même l'acception religieuse, les concepts religieux sont les mêmes en même temps. Donc, ce que je peux dire...
Oui. Excusez-moi, la pilote a 72 KJ, le propriétaire de ça, qui bloque la une dame derrière là qui va rentrer. Je vous en prie, excusez-moi.
Nous nous excusons pour cette interruption. Nous visitons également des réalités spéciales comme la mort. Nous en visitons comme le syncrétisme ou alors le symbolisme des végétaux dans ces cultures. Et le même parallèle est tracé depuis l'Égypte antique jusqu'au peuple bamoun et en passant par d'autres peuples en Afrique noire. Et on se rend compte très bien que non seulement la culture bamoun est très imbibée de la culture égyptienne, mais également d'autres peuples d'Afrique, et pas très loin de nous, ont également conservé cette culture de la vallée du Nil. Et dans le tome 2 également, nous nous rendons compte que même dans le tome 1, même la conception de Dieu, ce que nous concevons de Dieu, la conception profondément religieuse, est également issue de cette culture, de notre racine commune, qui est la civilisation égyptienne. Donc, sans tirer de long en large, j'aimerais simplement que les uns et les autres lisent ceux qui n'ont pas lu, qu'ils commencent à lire, ceux qui n'ont pas acheté ces ouvrages, qu'ils les achètent parce que ces ouvrages nous permettent de rentrer vers nous-mêmes, nous permettent de nous élever, nous permettent également d'être typiquement nous-mêmes et de comprendre également que nous avons toute raison d'être fiers de nous. Parce que ceux qui viennent nous dominer aujourd'hui, en fait, sont dominés, ont été dominés et sont dominés par la civilisation égyptienne. Et ils viennent nous revendre ce qu'ils ont acheté de nous. Alors, allons reconquérir notre être pour pouvoir reconquérir également non seulement notre fierté, mais également notre esprit. Et à la fin, comme troisième mouvement, j'aimerais dire ici que les ouvrages de M. Lidjou ne se lisent pas comme des romans. Les ouvrages de M. Lidjou, non seulement sont écrits dans un français assez puriste, je préfère dire puriste, je le dis pur, parce que c'est un anglais, non seulement dans un français puriste, mais également ces ouvrages nous permettent d'accéder à une autre réalité qui est nous-mêmes. Dans le sens critique que je peux apporter à cela, nous ne pouvons pas rejeter tout ce que nous avons reçu de l'Occident. Ce n'est pas possible. En l'état actuel de notre être, nous ne pouvons pas le rejeter parce que la culture que nous avons reçue de l'Occident, c'est cette culture-là qui nous permet de pouvoir lire les œuvres de celui-ci. Et si quelqu'un n'a pas été à l'école, il ne peut pas casser la coque de ses ouvrages pour en retirer ce que nous pouvons appeler la substantifique mal. Nous ne pouvons pas rejeter cela. Et enfin, j'aimerais dire, et ça je le redis, les ouvrages de M. Lidjou nous permettent d'accéder à la religion universelle. La religion universelle qui n'est pas la religion catholique, qui n'est pas la religion musulmane. Mais vous allez vous rendre compte qu'à un certain niveau de la conquête de l'esprit, les descriptions, les réalités sont exactement les mêmes. Vous allez trouver des termes comme le karma. Vous allez retrouver des termes comme je peux encore c'est difficile à expliquer, comme la transmutation des énergies que beaucoup qui font dans l'ésotérisme évoquent aujourd'hui et vous disent même que la transmutation des énergies, si vous ne la faites pas, il faut apprendre à la faire parce que cette transmutation vous permet de capitaliser tout ce qu'il y a comme énergie autour de vous et de faire de vous un homme nouveau. Ces ouvrages nous ont renvoyés à la conquête et à la compréhension des éléments, premiers de la nature, parmi lesquels je vous citerai simplement la terre, l'eau, l'air, le feu, et que les chrétiens, que les musulmans utilisent un peu comme nous apprendre cela, comme si on nous apprenait ces éléments-là. Or, les ouvrages de M. Bidjou nous apprennent que on doit aller au-delà de ce que c'est nous percevons comme air, comme le feu, comme l'eau. Il faut aller au-delà de cela pour voir à quoi ces éléments nous servent et pour pouvoir exploiter ces éléments dans l'élévation de notre vie. Et vous dire également que je prends simplement l'exemple de l'air. Il existe une pratique ésotérique qu'on a appelée le pranayama, qui en fait l'exploitation de l'énergie de l'air pour avoir une énergie éthère. Et ce pranayama a commencé à exister d'abord en Égypte. Et c'est pour ça que beaucoup l'appellent pranayama égyptien. C'est-à-dire que vous pouvez prendre l'énergie qui est dans l'air et ne même plus avoir besoin de manger et l'exploiter dans votre corps pour soigner des maladies, pour régénérer votre corps et ainsi de suite. Donc, je pense que je vous donne là un aperçu. La dernière chose à dire, qui est simple, c'est que c'est une œuvre humaine qui est perfectible. Si vous voulez. Mais je pense qu'il serait difficile d'aller plus loin que celui-là, sauf si vous prenez l'un des aspects qu'il a développé pour en faire l'objet d'une étude particulière. C'est un ouvrage très riche, très enrichissant. Et c'est un ouvrage, donc, ou alors des ouvrages réservés aux fils de l'homme. Merci beaucoup.